Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens. La France, une nouvelle fois condamnée pour le manque de structures d'accueil pour autistes, une réserve d'étoiles au Pays de Galles, l'évêché espagnol qui voudrait gommer le passé de la mosquée de Cordoue, le grand retour en musique de Néné Marianne Carlson, mais tout de suite, passe d'armes entre députés africains et européens à Strasbourg. Cette semaine se tenait à Strasbourg la 27e session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE, réunissant des députés européens et des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Si la crise en République centrafricaine a constitué une bonne partie des échanges, c'est un tout autre sujet qui a provoqué les plus vifs débats lors de la discussion sur la lutte contre le sida, la récente loi contre l'homosexualité adoptée en Ouganda, ainsi que les lois homophobes passées au Nigeria et au Cameroun. Et l'on a assisté à une opposition très nette entre pays africains et européens, les Européens qui envisagent même de revoir l'accord de coopération entre l'UE et les pays de l'ACP, Anya Vogel.
Toute loi qui criminalise l'homosexualité est une infraction caractérisée aux conventions internationales qui protègent les minorités et doit être retirée immédiatement, s'est insurgé le vice-président de l'Assemblée parlementaire Louis Michel. L'eurodéputé belge, rapporteur du Parlement européen sur les droits de l'homme, s'appuie sur une résolution adoptée la semaine dernière par le Parlement européen qui demande de sanctionner l'Ouganda et le Nigeria, d'entamer d'urgence un dialogue politique renforcé, voire d'envisager de suspendre l'accord de Cotonou. Inadmissible, ont répondu la plupart des parlementaires africains, pour qui ce n'est pas une question de droits fondamentaux mais de diversité culturelle. Christophe Lutundula Pala est député national de la République démocratique du Congo.
Bon, la première chose que nous déplorons, c'est la forme. Nous sommes dans un rapport d'égalité qui suppose la courtoisie. Nous avons été indignés et frustrés par les différentes positions qui ont été prises dans des termes très violents et peu courtois. Et fondamentalement, c'est aussi un problème de culture. Vous acceptez chez vous, en Europe par exemple, la nudité. Il y a des compagnies, des groupes, des sociétés de nudistes. Chez nous, c'est inacceptable. Ça ne peut pas passer. Vous n'acceptez pas la polygamie. Les sociétés musulmanes acceptent la polygamie. Vous prenez par exemple du côté médical. C'est vous-même, ce sont vos scientifiques, avec le nôtre, qui nous ont dit à un moment donné que l'homosexualité est un des facteurs de propagation du sida. Voilà. Ce sont tous ces problèmes-là qu'il faut étudier et nous disons que bon, on en discute, mais que ça ne soit pas une imposition.
Laissez-nous du temps, comme il vous en a fallu beaucoup à vous-même, conclut Christophe Lutundula Apala. Nous ne pouvons jamais accepter que des gouvernements puissent instrumentaliser un quelconque argument culturel pour justifier la diabolisation de l'homosexualité, a répondu Louis Michel, pour qui le droit à la différence est bien une expression fondatrice des droits de l'homme.
Autre dossier qui provoque les réactions de Bruxelles. Le mois dernier, Paris a été condamné pour la 5e fois par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir respecté le droit des enfants autistes à recevoir une éducation. Alors qu'en France, la maladie touche 1% des enfants, encore trop peu d'entre eux sont acceptés dans les écoles ordinaires. Autre problème, les places dans les établissements spécialisés sont rares, en particulier pour les enfants de plus de 12 ans. Passer cet âge, leur trouver une structure adaptée s'apparente souvent à un chemin de croix pour les parents. C'est un reportage d'Abla Jounaïdi.
Tu veux un autre dessin animé? Tu veux qu'on te mette un dessin animé? Dis bonjour.
Sur la table à manger de ce joli pavillon de banlieue parisienne, un classeur plein à craquer résume la quête acharnée de Driss Hamdaoui et sa femme. 3 ans que ses parents se battent comme de beaux diables contre l'administration. Car Elias, leur fils autiste, a maintenant 16 ans. Ce gaillard d'1m95 n'a donc plus sa place dans la structure médicale qu'il occupe encore et qui, en principe, accueille des enfants handicapés jusqu'à 12 ans seulement. Pourtant, les parents d'Elias avaient entamé les démarches dès 2011 pour trouver une structure d'accueil adaptée à l'âge d'Elias. Mais ils ont essuyé refus sur refus. Driss Hamdaoui.
Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant et c'est une machine à user les parents. Psychologiquement, oui, on est usé, on est au bout, on est fatigué, on se demande, mais sans se plaindre, Elias est différent des autres enfants, il est handicapé. Donc ça, c'est un premier handicap, c'est lui qui l'a. Le deuxième handicap est pour la famille. Et le troisième handicap, c'est que face à toute cette administration, aujourd'hui, on n'est pas entendu. on n'est pas reconnu. Et comme je dis à chaque fois, on a l'impression de retourner au Moyen-Âge, à l'époque des lépreux, où effectivement on mettait les personnes sur une île, on leur apportait à manger si on avait le temps ou si on y pensait. Et je le dis tout le temps, j'ai vraiment l'impression que les animaux via la SPA sont plus protégés en France que de par toutes les associations qui existent pour les personnes handicapées.
Poussé à bout, c'est finalement vers la justice que les Hamdaoui ont fini par se tourner. Et le mois dernier, le tribunal administratif leur a donné raison. L'agence régionale de santé a été sommée de trouver une place à Elias. En attendant, il est autorisé à rester dans la structure actuelle, un répit de courte durée.
Ça nous permet juste de souffler. Puisque globalement, s'il n'était pas pris en charge à partir de hier, ma femme était condamnée à arrêter de travailler. Au niveau financier, se passer d'une paye, c'est pas possible. Nous avons des engagements financiers au niveau d'un crédit immobilier. Donc c'est pas possible d'assumer avec une seule paye les revenus. Et puis derrière, Elias est déjà en régression depuis 2 ans et demi au sein de l'établissement où il est, puisqu'il ne propose plus un projet pédagogique éducatif adapté à son état. Ça aurait été catastrophique. Donc effectivement, ça donne une bouffée d'oxygène. Par contre, à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de proposition pour une place pour la rentrée. Et nous souhaitons absolument avoir un retour de l'Agence régionale de santé ou du ministère ou des autorités tutelles pour trouver une solution pour Elias. Voilà.
La France manque cruellement de places pour les autistes. D'ailleurs, l'État n'a jamais mené d'études statistiques sur la question. Des lacunes qui ont valu à la France d'être condamnée pour la 5e fois par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir respecté le droit des enfants autistes à recevoir une éducation. Et cela malgré l'adoption en 2013 d'un 3e plan autisme doté de 205 millions d'euros. Danielle Langlois, présidente de l'association Autisme France, participe à sa mise en place. Pour elle, le retard français n'est pas seulement financier, il est aussi culturel. Selon elle, la France a toujours tourné le dos au traitement comportementaliste de l'autisme, confortant ainsi le monopole de la psychanalyse.
En France, ça reste un tabou. Les médecins ne sont pas du tout formés à l'autisme. Donc c'est une vraie culture en France. Vous allez, l'aide sociale à l'enfance, vous écoutez les psychologues scolaires, vous écoutez les éducateurs spécialisés. Ils ont tous cette culture-là basique, psychanalytique, qui consiste à penser que la famille est toujours responsable et que quand un enfant a des difficultés d'apprentissage, des difficultés de comportement, des difficultés de développement, des difficultés de tout ce qu'on veut, il faut s'en prendre aux parents, surtout à la mère. Alors si elle a le mauvais goût d'être seule, alors la pauvre, elle en prend la pleine figure, parce que forcément c'est elle qui a fabriqué le trouble du développement de l'enfant. En France, on en est encore là. Le drame, c'est qu'il n'y a jamais eu de campagne nationale de sensibilisation à l'autisme. Alors vous allez aux États-Unis, c'est fait depuis 30 ans.
Très lentement, les lignes commencent à bouger. Dans un rapport récent, la Haute Autorité de Santé a ainsi recommandé d'écarter les approches psychanalytiques. Fouzia Bruzi, mère d'un fils autiste de 8 ans, a déjà mis en place dans sa propre maison une structure accueillant 5 enfants et qui pratique les fameuses thérapies alternatives issues des États-Unis.
Ici, c'est la cuisine. Ça nous permet de travailler tout ce qui est autonomie. Et on fait aussi des ateliers cuisine, parce qu'ils adorent ça, en fait. Et on utilise beaucoup le jeu pour les apprentissages. Donc, par exemple, la cuisine, on l'utilise pour apprendre les quantités, les mathématiques. On a un petit classeur, comme ça, et qui est adapté, parce que les enfants autistes, ils sont très sensibles à tout ce qui est visuel. En fait, ils ont une mémoire visuelle. Donc, en ayant toujours des images, on peut faire, on fait des petits programmes comme ça, des recettes de cuisine adaptées.
Fouzia Bruzi a su recevoir des dizaines d'appels de parents en détresse. Mais aujourd'hui, elle est menacée de fermeture si elle ne met pas sa structure aux normes en installant un ascenseur.
Cet ascenseur, nous ne pouvons pas le financer puisque nous n'avons aucun financement d'État. Alors les travaux devraient coûter entre 50 000 et 100 000 euros. Cette somme, on ne l'a pas. Et puis même si je l'avais, j'ai autre chose à faire avec 100 000 euros. Il n'y a rien qui est fait par rapport à l'autisme. Et aujourd'hui, on existe et on s'est substitué à l'État. Le paradoxe de l'histoire, c'est que je vais mettre 5 handicapés dehors et 2 contrats à venir dehors. Ça manque de bon sens. Qu'on accueille nos enfants, qu'on les accueille de manière convenable et adaptée, avec les méthodes qui marchent dans le monde entier. Je préférais pas exister en tant qu'association, mais on existe parce qu'on n'a pas le choix.
Chez les familles d'autistes, la colère couve. Pour le moment, cette colère ne s'exprime que sur les réseaux sociaux, parfois à l'occasion de drames qui trouvent un bref écho dans les médias. Mais surtout, les familles sont contraintes de s'organiser, de bricoler pour pallier les défaillances de l'État.
Au Pays de Galles, le parc national des Brecon Beacons est devenu il y a un an la 8e réserve internationale de ciel étoilé. Sébastien Duval, des étoiles plein les yeux.
And then on the other side of the pole, Cassiopeia, the W or an M.
Pas un nuage à l'horizon. Le ciel gallois est complètement dégagé pour une fois. Les étoiles brillent au-dessus des collines endormies. Plongée dans l'obscurité, la société d'astronomie de Cardiff a sorti ses télescopes pour observer Jupiter. Ce groupe de passionnés se rend plusieurs fois par an dans les Brecon Beacons, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale. Ce parc national a obtenu il y a un an le label Dark Sky, le fruit des efforts réalisés par les autorités locales pour lutter contre la pollution lumineuse traditionnellement observée à proximité des grandes villes. Selon Dave Powell, secrétaire de la société, les Brecon Beacons bénéficient également d'une topographie avantageuse.
Les montagnes qui entourent le parc font office de bouclier. C'est un espace agricole où l'on trouve surtout des fermes. Maintenant qu'il a été labellisé, personne ne sera autorisé à construire quoi que ce soit qui puisse gêner la visibilité. Ce sera toujours un site unique pour les amateurs d'astronomie qui souhaitent observer la Voie lactée, les objets moins brillants et le ciel étoilé.
La qualité du ciel est devenue un argument touristique dans la région. Surtout connus jusque-là pour leurs sentiers de randonnée, les Brecon Beacons attirent désormais les amateurs d'astronomie. Plusieurs bed and breakfast ont d'ailleurs investi dans des télescopes afin de satisfaire cette nouvelle clientèle. Ils devraient afficher complet jusqu'à dimanche. Un festival d'astronomie est organisé pour la première fois ce week-end dans la réserve galloise au ciel étoilé.
La célèbre mosquée cathédrale de Cordoue en Espagne, au cœur d'une polémique. Mosquée pendant 5 siècles jusqu'en 1236, elle fut partiellement détruite pour y ériger une cathédrale où le culte catholique continue d'être célébré. Mais aujourd'hui, l'évêché prétend faire de ce lieu singulier, l'un des plus visités d'Espagne, un lieu purement catholique. C'est un reportage de François Musso.
On entend de la musique andalouse aux sonorités orientales et par-dessus le carillon de la cathédrale. Ces deux sons différents résument bien ce que la mosquée cathédrale a été au cours de ses 13 siècles d'histoire, une empreinte islamique et une empreinte catholique. Il est 21h à Cordoue ce jour-là, le spectacle nocturne vient de commencer. Pendant près d'une heure, une promenade musicale dans le monument, doublée d'un récit historique, nous raconte ce lieu majestueux. Mais il le raconte de façon biaisée, en insistant sur la supériorité de la cathédrale et de la foi catholique, et en minimisant la part musulmane. Ce spectacle nocturne est organisé par l'évêché de Cordoue, une autorité qui a la gestion du lieu, qui assure son entretien et qui dispose des 15 millions d'euros que rapportent chaque année les visites touristiques. Ces jours-ci à Cordoue, il y a une forte polémique autour de la mosquée cathédrale, précisément parce que l'évêché voudrait accaparer complètement ce monument qui est à la fois un musée et un lieu de culte catholique. En décembre dernier, un collectif de citoyens en colère s'est mis en place pour dénoncer ce qu'ils appellent une manipulation de l'histoire. Miguel Santiago, professeur dans le secondaire, est membre de ce collectif.
En plein 21e siècle, l'Église envisage ni plus ni moins de faire disparaître ce qui fait l'identité même de la ville. Si Cordoue est connue dans le monde entier, c'est bien grâce à sa mesquita, la mosquée, et parler de la mosquée, c'est parler de Cordoue. L'Église est tout bonnement en train de nier l'histoire du bâtiment dans son propre intérêt.
L'évêque Demetrio Fernandez refuse de répondre aux questions de vive voix, mais dans la presse locale, il a exprimé son sentiment, à savoir que l'Église s'est occupée de ce monument pendant 8 siècles depuis la reconquête catholique de l'Espagne. Elle s'en est même bien occupée, dit-il, elle a soigné le lieu, l'a entretenu, il est donc normal à ses yeux que le monument soit appelé cathédrale et seulement cathédrale, et non pas mosquée cathédrale, comme c'était le cas jusqu'alors. Rappelons que tous les Espagnols disent mezquita, c'est-à-dire mosquée, pour désigner ce joyau de l'art islamique, l'un des plus beaux de l'art d'islam d'Occident. Mais ce n'est pas qu'une question de nom, c'est aussi une question de propriété. En 2006, l'évêché de Cordoue l'a inscrit à son nom sur le registre foncier, sans rien dire à personne, et depuis, il a tout pouvoir sur le lieu. Cela fait enrager le juriste Antonio Manuel Rodriguez, un autre membre actif du collectif citoyen.
L'évêché de Cordoue a profité d'une législation datant de 1998 qui laisse beaucoup à désirer puisqu'elle comporte des normes pré-démocratiques, anticonstitutionnelles, des normes qui sont en contradiction avec le principe de laïcité de l'État.
À ses yeux, l'Église n'a que l'apparence de la propriété, mais il sait aussi que si dans 2 ans rien ne se passe, la propriété cléricale sera réelle et définitive. Que veut le collectif qui a recueilli près de 200 000 signatures? Eh bien, que la propriété de la mosquée cathédrale devienne publique, ce qui ne remet pas en cause les messes dans la cathédrale. Pour cela, il faudra que la région Andalousie réagisse. Elle a juste promis pour l'instant, je cite, qu'elle allait s'occuper de l'affaire. Pendant ce temps, ce lieu qui a très longtemps été un symbole de bonne entente entre les religions se christianise de plus en plus. Exemple, les guides sont formés et autorisés par l'évêché et spécialisés en art chrétien. Quand un musulman entre faire une prière, il est immédiatement expulsé. C'est arrivé plusieurs fois à Mohamed Escudero, espagnol converti, vice-président d'une association islamique.
Nous pensons qu'un monument aussi symbolique dans la ville, dans notre histoire, en Espagne et au niveau mondial peut constituer une nouvelle occasion de dialogue, d'échange et de rencontre entre différentes civilisations, différentes cultures et différentes religions.
Personne ne sait comment se finira cette bataille et surtout si la région rendra ou non le lieu public. Si ce n'est pas le cas, si l'Église en garde le contrôle, les opposants craignent que la mosquée-cathédrale perde son statut de patrimoine de l'humanité accordé par l'UNESCO en 1978.
Bonjour Vincent Thébal.
Et bonjour Laurent.
Aujourd'hui, une chanteuse d'origine nordique mondialement connue.
Oui, on va saluer le retour de la Suédoise Néné Cherry, qui vient tout juste de fêter ses 50 ans avec la sortie d'un formidable nouvel album. C'est un événement, hein, puisqu'elle n'avait pas enregistré de disque en solo depuis 96 et l'album Man. On se souvient du tube planétaire Seven Seconds qu'elle chantait avec Youssou N'Dour. Alors ces 18 dernières années n'ont toutefois pas été chômées pour Néné Cherry qui a participé à de nombreux disques collectifs, notamment avec le groupe Circus. Son nouvel album Blank Project a été écrit en réaction à la disparition brutale de sa mère. Ce n'est pour autant pas un disque de deuil, triste ou mélancolique, mais plutôt un sursaut enregistré avec l'aide du producteur de musique électronique Fortet. Ses morceaux sont âpres et minimalistes, de véritables diamants bruts.
Keep your head above the water. Smell of any money keeps the wolves from the door. Then there's the man who weighs my taxes. It's a kick against the pricks now. Run a little faster. Make it go a little further. Maybe I can go far. Maybe I can catch you. Maybe I can make good. For the love of so many.
Cet extrait du dernier album de Néné Cherry que nous refermons Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve lundi dès 14h10 et tout de suite sur les pages RFI Facebook et Twitter d'Accent d'Europe.